Chapitre 31. Jérusalem.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Demanda Arman. Daïman et lui se tenaient à l'ombre du mur des Lamentations, quelques pas derrière sa vie, et tous trois fixaient la colonne de lumière bleue qui montait vers le ciel crépusculaire.
Je pense que ce sont mes amis,
dit la vieille femme.
Mes 9113 amis. Tous les humains à l'ancienne, emportés par le dernier fax.
Daïman échangea un regard avec Arman et comprit que tous deux doutaient de la santé mentale de sa vie.
« Tes amis ?» lança Daïman. « Mais c'est de la lumière bleue !»
Sa vie s'arracha à la contemplation de la colonne lumineuse. Celle-ci éclairait le sommet des antiques édifices et les murs qui les entouraient, baignant toute chose d'une clarté bleue à mesure que le jour tombait, et leur adressa un sourire que l'on aurait pu qualifier de piteux.
« Oui. » Cette lumière bleue, mes amis.
Faisant signe aux deux hommes de la suivre, elle s'avança sur l'esplanade, s'éloignant de la base de la colonne lumineuse pour se diriger vers l'endroit par lequel ils étaient arrivés.
D'après ce que nous ont dit les postes, le dernier fax avait pour but de nous archiver pendant qu'il faisait un peu de ménage dans le monde,
reprit sa vie d'une voix douce dont les échos résonnaient dans les étroites ruelles.
Il projetait de compresser nos codes. À l'époque, nous n'étions déjà plus que des codes fax aux yeux des post-humains, mes amis. Et de nous intégrer dans une boucle neutrinique continue pendant une durée de 10 000 ans, le temps de nettoyer la planète.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Demanda Arman.
Nettoyer la planète ?
Ils passèrent sous une galerie et ce fut à peine si Daïman distingua le sourire de sa vie dans la pénombre.
Les choses se sont pas mal gâtées vers la fin de l'ère perdue,
expliqua-t-elle.
Surtout à l'issue du Rubicon. Puis sont venues les années de démence. Les arnistes ont ressuscité les dinosaures, les oiseaux terreurs et des végétaux depuis longtemps disparus, perturbant l'écologie de la planète, alors même que la biosphère et la datasphère commençaient à se fondre l'une dans l'autre pour former une noosphère douée de conscience. La logosphère. Les post-humains s'étaient déjà réfugiés dans les anneaux. La noosphère consciente de la Terre ne leur faisait plus confiance, et avec raison, car ils s'amusaient avec la téléportation quantique, ouvrant des portes donnant sur des lieux qu'ils ne pouvaient comprendre, des portes qu'ils n'auraient jamais dû ouvrir.
Arman fit halte alors qu'il débouchait dans une rue plus large.
Sa vie, aurais-tu l'amabilité de tenir des propos sensés? Nous ne comprenons pas les deux tiers de ce que tu racontes.
Comment le pourriez-vous ?
Rétorqua sa vie, dont le visage exprimait la souffrance ou la sévérité.
Comment pourriez-vous comprendre quoi que ce soit ? Pas d'histoire, pas de technologie, pas de livres.
Nous avons des livres ?
Dit Arman sur la défensive. Sa vie s'esclaffa.
Quel rapport entre cette lumière bleue et ces histoires de dinosaures et de noosphères ?
S'enquit Daïman. Sa vie s'assit sur une murette. La brise qui venait de se lever sifflait dans les toits aux tuiles cassées. L'atmosphère devenait de plus en plus fraîche.
Il devait nous mettre à l'écart pendant qu'il faisait le ménage, reprit-elle. Un tor de neutrinos, disait-il. Pas de masse, pas d'encombrement, pas de soucis. 10 000 ans pour nettoyer la terre de fond en comble. Pour nous, humains à l'ancienne, à peine un clin d'œil. C'est ce qu'il disait.
Mais ils t'ont oublié, dit Arman.
Oui.
C'était un accident.
J'en doute,
répondit la vieille femme.
Les postes ne faisaient pas grand-chose par accident. Peut-être m'avait-il attribué un but bien précis. Peut-être m'ont-ils châtié parce que je m'intéressais trop à une partie de l'histoire qu'ils auraient préféré voir rester enfouie. Car c'est ce que j'étais, voyez-vous, une historienne. Une historienne des cultures.
Elle partit d'un nouveau rire dont Daïman ne comprit pas la signification.
Donc, les neutrinos sont bleus ?
Demanda-t-il, bien décidé à obtenir une réponse claire. Elle rit de plus belle.
J'en doute franchement. Je ne pense pas que les neutrinos aient une couleur. Pas plus que du charme. Mais ce rayon bleu apparaît tous les ans pour le Tisha B'Av, le 9 Av, et quelque chose me dit que tous les autres humains à l'ancienne, tous mes amis, sont archivés et cryptés dans ce rayon bleu. Je ne pense pas qu'ils soient produits par cette machine que vous voyez là. Je pense que la Terre traverse le rayon neutrinique tous les ans en ce point précis de son orbite, et que cette machine ne fait que le rendre visible.
Mais il ne s'est pas écoulé 10 000 ans depuis le dernier fax, fit remarquer Harman. Seulement 1 400, nous as-tu dit?
Savi acquiesça d'un air las. Et on n'a pas nettoyé grand-chose depuis ce moment-là, n'est-ce pas, mes jeunes amis?
Elle se leva, souleva son sac à dos et s'engagea dans la rue pour se figer aussitôt.
Un Voynix!
S'écria Daeman.
On n'aura plus besoin de retourner au Seni à pied! Il suffit de lui demander d'aller chercher un cabriolet et...
Le Voynix, une silhouette de fer et de cuir découpée à contre-jour sous la galerie, rétracta soudain ses manipulateurs pour faire sortir ses lames coupantes. Puis il fondit sur eux, rampant sur le mur telle une araignée enragée. Savi, qui fouillait désespérément dans son sac depuis que Daeman avait parlé, en sortit l'objet de métal et de plastique noir, un pistolet avait-elle dit, et le pointa sur le Voynix. Daeman était trop choqué pour bouger. La créature se rapprochait de lui, elle n'était plus qu'à 2,50 m du sol et continuait de descendre, mais c'était Savi qu'elle semblait viser. Soudain, le calme vespéral fut déchiré par un bruit fracassant, évoquant celui d'une rame raclant des tuiles d'ardoise, et le mur explosa dans un jaillissement de gravats, le Voynix alla s'effondrer sur les pavés, et Savi avança d'un pas, visa et tira une deuxième fois. Plusieurs dizaines de trous apparurent sur la carapace et la capuche métallique du Voynix. Son bras droit se leva comme pour lancer un projectile, mais de nouvelles fléchettes le frappèrent et il s'arracha au torse et s'envola au loin. Le Voynix réussit quand même à se redresser et sa lame valide tournoyait encore. Savi tira une nouvelle fois, manquant déchirer en deux la créature. Un fluide bleu et laiteux aspergea les murs et les pavés. Ce qui restait du Voynix s'effondra, tressaillit, et cessa de bouger. Harman et Daeman s'avancèrent prudemment, s'efforçant de ne piétiner ni le fluide bleu ni les débris de la créature. En l'espace de 2 jours, c'était la deuxième fois qu'ils assistaient à la destruction d'un Voynix.
« Venez !» fit Savi tout en éjectant le chargeur vide pour le remplacer par un œuf. « S'il y en a d'autres dans les parages, nous sommes en danger. Nous devons regagner le Sony. Et vite !»
Elle les emmena dans une étroite ruelle, qui devint bientôt une venelle encore plus étroite, pour se réduire finalement à un passage entre 2 bâtiments de pierre. Ils émergèrent dans une vaste cour poussiéreuse, passèrent sous une galerie et aboutirent dans une cour plus petite.
« Vite !» chuchota Savi.
Elle les précéda dans un escalier extérieur, sur un toit en terrasse où la poussière s'entassait jusqu'à former des dunes, puis sur une échelle en bois par laquelle ils gagnèrent le toit d'un autre immeuble en passant devant des fenêtres aux volets clos.
« Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?»
murmura Harman comme il marquait une pause dans la nuit de plus en plus fraîche.
« On ne devrait pas retourner près du Sony ?»« Je vais le faire venir ici, » répondit Savi.
Elle mit un genou à terre près du muret servant de balustrade et activa sa fonction Proxnet, dissimulant d'une main l'éclat du rectangle lumineux. Harman s'accroupit auprès d'elle. Daeman resta debout. La fraîcheur de l'air était la bienvenue après la chaleur régnant dans les rues et les venelles pavées, et la vue était intéressante à observer. À leur droite, la colonne de lumière bleue s'élançait vers le ciel, baignant de son éclat dôme, toit et rue. La nuit était tombée et les étoiles étaient visibles dans le ciel. La cité était dépourvue d'éclairage, mais les dômes et les flèches antiques luisaient d'un bleu soutenu, ainsi que quelques galeries couvertes. Selon Savi, l'enceinte au sommet de la colline, là où jaillissait la colonne, s'appelait Haram Esh-Sharif, le mont du temple, et les 2 dômes situés à la base de la machine du rayon étaient la coupole du rocher et la mosquée Al-Aqsa.
« Itbal Yahoud !»
Ce cri strident résonna soudain de toutes parts, amplifié par le réseau des rues devant eux. Il se répéta à l'ouest, en provenance du labyrinthe de ruelles qui les séparait du Sony.
« Itbal Yahoud !»
Savi leva les yeux de son écran virtuel.
« Qu'est-ce que c'est que ça ?»
murmura Harman d'une voix de fausset.
« Les Voynix ne parlent pas ?»«
Non, » fit Savi.
Ça vient des muezzins automatiques, des haut-parleurs placés dans les mosquées qui lancent l'appel à la prière.
« Itbal Yahoud !»
répéta la voix trémulante dont les échos résonnaient sur toute la ville enténébrée.
« Al-Jihad !»
ajouta-t-elle.
« Itbal Yahoud !»«
Merde !» s'exclama Savi en fixant le rectangle. « Pas étonnant qu'il ne réponde pas à la télécommande !»« Qu'y a-t-il ?» Daeman et Arman se rapprochèrent, se penchant pour mieux voir l'écran virtuel flottant quelques centimètres au-dessus de la main de Savi. L'image montrait l'avant du Sony. Les rochers qui l'entouraient et les murailles de la cité luisaient d'une douce lueur sous l'objectif de la caméra, réglée pour une vision nocturne. Tout près de l'objectif en question, plusieurs vingtaines de Voynix se massaient autour de la machine volante, se jetant sur elle de toute leur force quand ils ne la défonçaient pas à coups de rochers menaçant de l'enfouir.
« Ils ont neutralisé le champ de force et cassé l'appareil !» murmura Savi. « Nous ne reverrons plus ce Sony !»«
Allahu Akbar !»
s'écrièrent les voix amplifiées dans tous les quartiers de la cité.
« Itbal Yahoud ! Itbal Yahoud !»
Les trois compagnons se plantèrent au bord du toit. L'espace d'une seconde, Daeman crut que les immeubles, les rues pavées et les cours murées étaient en train de frémir, de s'effriter, de se dissoudre sous l'éclat indirect de la lueur bleue, puis il comprit que des créatures rampaient sur les pavés, les dômes, les murs et les toits. Des milliers de créatures, comme une invasion de cafards irrésistiblement attirés par la colonne lumineuse. Puis il se rendit compte que les bâtiments grouillants d'envahisseurs chatoyants étaient en fait fort éloignés, rajusta son échelle et comprit que ce n'étaient ni des cafards ni des araignées qui fonçaient sur eux, mais des Voynix.
« Itbal Yahoud !»
hurla l'omniprésente voix métallique. L'écho de ces syllabes résonna sur toute la cité sans leur faire perdre un iota de leur démence.
« Mais qu'est-ce que ça veut dire ?»
demanda Daeman. Savi considérait les Voynix bariolés de bleu, dont la masse débordait sur les toits et déferlait dans le dédale de ruelles sinueuses. Le flot d'insectes surdimensionnés n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres d'eux, suffisamment près pour qu'ils entendent le cliquetis des lames et des manipulateurs sur les tuiles et les pavés. Savi se retourna lentement. Son visage semblait plus vieux que jamais sous les pulsations de la lumière bleue.
« Itbal Yahoud !» répéta-t-elle à voix basse. « Tuez les Juifs !»